39 sur Europe 1. Vous le connaissez peut-être pour son invention, le gel hydroalcoolique. Emmanuel Macron lui a demandé de dresser un bilan du travail de l'exécutif sur la première vague. Ce matin, on se projette aussi sur l'interview du chef de l'État ce soir. Mon invité, le professeur Didier Pittet, président de la mission d'évaluation de l'exécutif sur la gestion du Covid.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Didier Pittet.
Bonjour.
Nous vous recevons pour détailler votre rapport, mais d'abord, je l'ai souligné, vous êtes suisse. Quand vous arrivez à Paris, quand vous descendez du train, est-ce qu'il y a une différence dans les mesures de précaution, dans l'attitude de la population ?
Oui, il y a une différence. À Genève, on a mis beaucoup plus de temps à appliquer certaines consignes. À Paris même, les consignes à la gare, par exemple, sont très bien appliquées. Je ne dis pas qu'elles sont très bien appliquées, par exemple, dans les restaurants, où là, les consignes sont mieux appliquées à Genève qu'à Paris, pour vous donner juste un exemple.
C'est un exemple, et c'est ainsi qu'on va avancer dans les minutes qui viennent, de façon pondérée, cette mission d'évaluation de la gestion du Covid par l'exécutif. D'abord, dans la tonalité générale, il n'y a pas de quoi se réjouir et pas de quoi paniquer non plus. Ça rappelle quelques bulletins scolaires. On est à un niveau intermédiaire, c'est bien, mais peut mieux faire.
Oui, bien entendu. La France est plutôt dans une situation intermédiaire, en particulier, par exemple, pour finalement le résultat principal que nous avons regardé et comparé aujourd'hui, c'est la mortalité liée au Covid, où elle est intermédiaire. Elle se classe bien mieux que l'Italie, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Bien entendu, beaucoup mieux que la Suède, et on ne parle pas des États-Unis qui est vraiment le mauvais élève.
Alors je vais souligner les points à améliorer, ça c'est une déformation professionnelle, professeur. Il y a un vrai problème d'anticipation, c'est ce que vous dites. Vous parlez d'un défaut manifeste de préparation et de gestion.
Oui, il y a eu un défaut de préparation au départ, mais évidemment ça n'est pas le seul pays qui n'a pas, dont les capteurs finalement n'ont pas repéré le début de la problématique. Il faut dire que l'Organisation mondiale de la santé ne l'avait pas repéré non plus. Donc, au même titre que beaucoup de pays en Europe, il y a eu une connaissance des faits sans finalement un alignement des paramètres qui auraient pu permettre une réponse plus rapide.
Mais pour ce qui est de la France, vous soulignez la question des masques. Hein. Ça a été le débat pendant de longs mois. Dramatique au regard de l'opinion publique. Hein. Comme tout le monde, on en a manqué. Mais chez nous, on a dit n'importe quoi.
On a dit beaucoup de n'importe quoi. En effet, on voit que ces masques, finalement, sont une problématique qui remonte à plus de 10 ans. Et on voit qu'au cours de ces 10 années, la doctrine a changé. Il y a eu une mauvaise compréhension de qui, finalement, devait stocker les masques. Est-ce que ce sont les hôpitaux? Il y a eu un peu de confusion entre les masques dits FFP2, qui sont réservés aux soignants, dans certaines circonstances seulement, et les masques communs, comme celui-là, le masque chirurgical. Puis au fil des années, il y a eu, au fond, une perte de cette notion de y a-t-il des stocks, où sont-ils, qui est-ce qui les contrôle. Et puis ensuite, il y a même eu des masques qui étaient soit non conformes, soit contaminés, ce qui fait que finalement, au bout du compte, il y a eu un vrai problème de compréhension de cette problématique des masques.
Et une position intermédiaire de la France aussi sur la gestion économique et sociale. On a un produit intérieur brut qui a chuté plus fort que chez nos voisins. En revanche, on a plutôt bien préservé l'emploi.
Alors oui, plus fort que nos voisins, mais dans les mêmes proportions que l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, hein, les pays qui ont été frappés très très fort par la crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment que la France a été frappée immédiatement, juste après l'Italie. Nos collègues italiens sont évidemment ceux qui sont le plus à plaindre. Et donc cette chute du PIB est à peu près équivalente chez les pays qui ont été frappés très fort et très vite. Et évidemment, il y a eu ensuite un soutien qui a été remarquable. Massif. Du gouvernement.
Par ailleurs, dites-vous, le système hospitalier français a tenu en faisant preuve d'adaptabilité. Mais, et c'est là qu'on se projette un peu, mais l'effort considérable d'adaptation et de mobilisation fourni par les professionnels de santé n'est pas forcément aisément renouvelable dans les mois à venir. Ça, c'est la partie un peu inquiétante.
Oui, bien entendu, le système a extrêmement bien tenu. Il n'y a pas eu de perte de chance en France, alors qu'il y en a eu dans d'autres pays. Par contre, il faut... De perte de chance de gens qui, malheureusement, n'auraient pas été traités. Comme en Italie, on a dû faire des choix, parfois en fonction de l'âge, de ne pas vous traiter. Donc, par rapport à Covid, il n'y a pas eu de perte de chance. On est en train d'évaluer par rapport à d'autres entités. C'est une autre question. Par contre, notre rapport dit bien que ça n'est pas une surprise, finalement. Attention, on ne peut pas renouveler cet effort de solidarité fantastique qui a eu lieu dans les hôpitaux de manière manière systématique et durable. Et c'est ça une des questions qui mérite une grande attention.
La question des moyens de l'hôpital et puis de l'énergie des personnels aussi. On sait que voilà, en ce moment, c'est ce qu'on va surveiller au plus près. Je reprends aussi une citation d'un de vos collègues de cette mission qui est la vôtre, Pierre Parnex, médecin. Ce qui manque le plus, ce sont des analyses plus fines des clusters. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle sans arrêt de clusters, tester, tracer, isoler. Toute cette logique-là, c'est raté en France?
C'est pas raté, mais c'est insuffisant au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir comprendre tous les clusters. Et idéalement, ça veut dire de comprendre les chaînes de transmission. Ça veut dire que chacun participe à cet effort, que ce soit les personnes quand elles vont dans les restaurants pour donner leur nom, parce qu'au fond, quand on reviendra pour chercher vos contacts, ça ira beaucoup plus vite.
Mais par exemple, alors dans le journal de 7h30, il y a quelques minutes seulement, on entendait ce reportage de Caroline Baudry. Tout le monde, on l'a tous fait ici, a donné son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Il y a des petits malins qui jouent à donner des faux noms.
Il y en a eu en Suisse aussi.
Et oui, on a vu que c'était à peu près partout en Europe. Angela Merkel en Allemagne promettait des sanctions lourdes en termes d'amende pour les menteurs. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu un coup de fil passé sur un de ces cahiers encore en France?
Tout à fait. Alors c'est là où l'investigation de terrain, comme on l'appelle, ce que Pierre Parnet dit, l'investigation des clusters, comprendre les chaînes de transmission est un peu défaillante et où il va falloir l'améliorer. Et on a recommandé qu'un groupe de travail se mette au travail tout de suite pour essayer d'améliorer cette
question. Comment on peut l'améliorer au regard, par exemple, de ce que font nos voisins?
Le travail, c'est le travail de ce qu'on appelle des fins limiers qui doivent être sur le terrain et évidemment accompagner des personnes qui, elles, font les numéros de téléphone au bon moment, aux bons endroits, aux bonnes personnes.
Vous appelez aussi, et là c'est une adresse au ministre chargé du travail, des transports, donner plus de flexibilité aux salariés, répondre aux craintes engendrées par l'utilisation des transports.
Oui.
On a un peu de retard là-dessus?
On a probablement du retard dans la communication, c'est-à-dire rassurer.
Il y a un problème, généralement, il y a un problème de communication dans cette gestion de crise.
Je crois qu'il y a, c'est ce que le groupe de travail, c'est pas moi qui le pense, c'est le groupe d'experts qui s'est penché là-dessus. Il y a eu, malheureusement, au départ, un faux départ avec cette affaire des masques qui finalement pèse encore aujourd'hui sur la confiance que la population a dans le gouvernement, par exemple, ou dans les agences locale. Et je pense que c'est évidemment éminemment dommage parce que cette confiance doit être là pour que nous participions tous ensemble à cette lutte. Finalement, on est tous dans le même bateau, le gouvernement, les citoyens.
Et il va falloir aussi une prise de conscience de l'opinion publique. Au-delà de cette problématique de confiance, il va falloir qu'on se ressaisisse tous. C'est un peu l'idée du message peut-être du président ce soir.
Je ne sais pas, je ne suis pas le conseiller du président, mais disons, je pense que oui, vraiment, responsabiliser chacun, chacune, c'est vraiment ce que nous devons tous obtenir, parce que nous sommes tous dans cette galère, si vous me permettez cette expression, et que, au fond, le respect des mesures barrières, hygiène des mains, distance sociale, à lui seul peut complètement interrompre l'épidémie. Donc ça laisse quand même songeur. Ce sont des moyens très simples.
Un dernier mot, je voyais dans le journal qu'on vous appelait le docteur main propre. J'ai parlé de votre invention, que tout le monde connaît. On va penser à vous en se frottant les mains aujourd'hui, c'est le gel hydroalcoolique. Je lisais dans la presse que vous reconnaissez les gels, les composants des gels à l'odeur.
Les composants, c'est beaucoup dire, mais le type d'alcool, parce que ça peut être de l'alcool éthylique ou isopropylique, oui.
Et celui-ci, par exemple...
Il faut que vous me laissiez l'essayer.
Je vous l'envoie, professeur.
Ok,
je vous laisse sentir ça et puis on va faire un petit test à l'antenne.
Excusez-moi,
ce matin.
Le masque est obligatoire, je le porte. Oui, c'est un bioéthanol, oui.
Voilà. J'allais le dire. Merci, professeur Pité. Et puis tiens, permettez-moi, le professeur me l'a demandé hors antenne. Suisse-Allemagne, hier soir, 3-0.
Ah bah voilà, c'est une bonne nouvelle, j'avais même pas encore le résultat. J'étais trop occupé pour ça, je suis
le
très content.
Le professeur
merci.
Pité en direct ce matin sur Europe 1, le tête-à-tête Europe Matin. Merci beaucoup, Didier
Pité. Merci, avec plaisir.
7h40.